appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci Focor de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Lors de sa visite en RDC, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a demandé aux groupes armés encore actifs dans les brousses de déposer les armes et d'accepter de les intégrer dans les communautés avec le programme DDR. Pendant ce temps, la province du Tanganyika, à 1900 miliciens, ont remis les armes aux autorités locales et à Ituri, environ 700 miliciens du groupe armé FRPI ont déjà rejoint les sites d'Azita pour les pré-cantonnements. Selon un responsable du programme national des DDRR, la RDC n'a pas à ce jour un programme officiel de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants issus des groupes armés. Selon vous, est-ce opportun de pouvoir maintenant proposer un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants? La question est lancée et le débat est ouvert à l'adresse pa@radiocapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. Vous pouvez également commenter ces sujets sur notre page Facebook pour nous dire exactement si c'est vraiment important aujourd'hui de relancer ces programmes pour au fait éradiquer cette crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Jean-Claude Siala sur la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Kalambay sous la supervision de Martin Sebujangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission en parole aux auditeurs est une rediffusion.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Bruno Donna qui est avec nous. Bonjour Monsieur Donna.
Bonjour Monsieur.
Je vous appelle Monsieur Donna ou Monsieur Bruno?
Bruno tout court, sans monsieur.
Sans monsieur, voilà. Alors Bruno, vous êtes le chef de DDR, RRCVR, section Monisco. Pourquoi DDR, RRCVR?
Alors, je travaille à la MONUSCO, responsable de cette section, et c'est une continuité dans les programmes qui fut de la MONUC et repris par la MONUSCO. C'est au fait, le petit DDR, c'est donc le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Les autres, on appelle DD3R. La chose la plus importante dedans, c'est le R qui veut dire rapatriement, c'est-à-dire pour les étrangers qui sont sur le sol congolais. Et le côté sévère, c'est l'acronyme en anglais qui veut dire Community Violence Reduction. En français, c'est la réduction de la violence communautaire. Et nous, au sein de la MONUSCO, nous avons mandat d'appuyer les autorités nationales pour cette approche non militaire qui traite des combattants et des personnes de la communauté. Merci.
Alors, cet appui se trouve à quel niveau à ces jours? Est-ce qu'il y a un programme entre la MONUSCO et les gouvernements congolais? Y a-t-il un programme?
La grosse réponse est oui. Vous parlez de programme, moi je parle de processus. On est dans un pays souverain. Tout processus de DDR est, bien sûr, à compétence nationale. Nous, au sein de la MONUSCO, nous travaillons selon le mandat. Comme vous savez, la dernière résolution du Conseil de sécurité 2463, je crois, du 29 mars, nous donne ce mandat de travailler, d'appuyer les autorités nationales. Alors, en ce moment, bien sûr, au pays, il y a une transition au niveau politique aussi. Donc les choses s'organisent du côté du gouvernement et nous sommes en appui, que ce soit pour les combattants congolais et les combattants étrangers. Nous, nous appuyons le processus à travers des projets et des programmes. Mais comme on dit, le lead, c'est le gouvernement. Mais nous, par exemple, la MONUSCO a un budget précis. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de DDR? Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de résolution
des conflits?
Donc, nous travaillons à l'ONU comme ça pour appuyer.
Mais à un certain moment, on a senti la présence, en tout cas la visibilité, et même de ces programmes des DDR, de la MONUSCO, aux côtés du gouvernement congolais. Mais à ces jours, finalement, c'est faible, on dirait.
Alors...
Est-ce que c'est lié au contexte? C'est lié à l'évolution de la situation politique du pays?
Alors moi, je ne vais pas répondre pour le pays. Je vais répondre par rapport à notre contexte à la MONUSCO. On peut peut-être aller un peu dans l'historique. Il y a eu les programmes DDR nationaux. Nous en sommes au numéro 3 du côté gouvernement. Ça s'appelle le programme national DDR. Et au Congo, le dernier R, il ne parle pas de réintégration, il parle de réinsertion. Il y a eu la CONADER à l'époque, si vous vous souvenez, un PNDDR 1, il y a eu 2, il y a eu 3. Le PNDDR 3, qui fut appuyé par les bailleurs, incluant la Banque mondiale, etc., viennent de clôturer l'appui de la Banque mondiale. Donc, en ce moment, avec les nouvelles autorités, justement, vous avez, n'est-ce pas, un nouveau gouvernement, mais nous savons déjà que depuis le début de l'année, il y a une impulsion, il y a des directives de la part des autorités nationales de donner un appui encore plus fort au DDR. Donc, il y a peut-être eu, ou il y a toujours cette transition. Mais nous, de notre côté, on n'arrête pas le travail. Je peux vous en parler si vous avez des questions plus tard, les détails de ce qu'on est en train de faire pour appuyer. Donc, est-ce qu'il y a eu peut-être une certaine lenteur? Je dirais oui. Maintenant, il y a les nouvelles autorités sont là et je pense que nous...
Oui, parce qu'on parle de pré-cantonnement actuellement, de quelques miliciens au niveau de Tanganyika, de la province de Tanganyika et aussi à l'Ituri. On parle de 1900 miliciens au niveau de Tanganyika et 700 au niveau de l'Ituri. Le pré-cantonnement, si je comprends, si je vous prends avec vos mots, c'est que ça ne concerne pas la section des DDR. Vous viendrez après le pré-cantonnement.
Alors... Allons, comme vous posez la question assez précise, on parle de l'Ituri. Donc l'Ituri, encore une fois, il y a eu un processus, je dirais, de pour parler de négociation entre le gouvernement congolais et ce groupe FRPI, n'est-ce pas, en Ituri. Juste avant les élections, l'ancien gouvernement était, je suppose, sur le point d'arriver à un accord, mais ça n'a pas eu lieu. En ce moment, il y a encore une fois, une nouvelle impulsion des négociations, je dirais. Et effectivement, vous avez raison, il y a un pré-cantonnement et plus de 700 combattants FRPI, incluant les membres de famille, sont aux alentours près. Dans ce processus, l'ONU, on appuie le gouvernement, n'est-ce pas? Il y a, je suppose, une certaine médiation qui se fait, mais opérationnellement, aussitôt qu'il y aura un accord de paix politique entre le gouvernement et ce groupe armé, nous serons prêts d'appuyer opérationnellement. Je voyais le processus de désarmement et de démobilisation. Et là, la section même de la MONUSCO, et nous avons un plan, mais on ne peut pas le commencer tant que les choses. Il y a une séquence précise. Juste après, il y a l'unité de stabilisation qui se trouve à la MONUSCO, où certains bailleurs sont prêts à assurer la réinsertion, la réintégration, bien sûr, avec certaines conditions. Donc, il y a plusieurs parties et les négociations sont appuyées directement avec la chef de bureau qui se trouve à Bounia elle-même. Donc, c'est plusieurs personnes et nous sommes prêts à appuyer. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un processus durable? Parce que finalement, vous avez évoqué les cas de la CONADER, des PNDR. On sent que quelque part, c'est comme si c'est des programmes qui s'arrêtent quelque part. Et les soucis pour les Congolais, c'est d'avoir un programme durable pour une paix durable. Est-ce possible? Et ça passe par quelles conditions?
Très bonne question. Alors, nous, on est une mission de la paix, n'est-ce pas? Nous avons des budgets précis. Et le budget que donne notre organisation à la MONUSCO, à la section, on s'occupe surtout du DD, désarmement, démobilisation. Alors juste après, il faut que cette réintégration soit pérenne. Pérenne, ça voudra dire que d'autres partenaires, je suppose bien avec le lead du gouvernement, d'autres bailleurs, l'équipe pays des Nations Unies, doivent appuyer le dernier R. Alors, on a fait, n'est-ce pas, des erreurs dans le passé, partout, il faut le reconnaître, que souvent, ce qui se passe, on fait un appel à la paix, et puis on les désarme, on démobilise, et puis la réintégration n'est pas pérenne, peut-être par manque de planification ou de fonds. Maintenant, il faut savoir, quand on traite les ex-combattants, il faut aussi traiter les membres de la communauté. Il faut pas non plus faire une préférence à ceux qui ont fait la guerre sur celles et ceux de la communauté. Donc, il faut qu'il y ait une pérennité. Mais cette pérennité, ça doit venir avec d'autres choses. Je dis souvent, le DDR, ça crée l'espace pour la paix. Mais le DDR tout seul ne va pas pouvoir être, comment on dit, successful, être un succès sans qu'il y ait, par exemple, si vous désarmez et démobilisez les gens et qu'il n'y a pas l'autorité de l'État présente, s'il n'y a pas les services de base présents, alors vous les mettez où? Vous auriez eu dans le temps un petit succès momentané, mais maintenant il faut que ce soit durable. Est-ce que les emplois sont là? Est-ce qu'il y a quelque chose de durable? Donc, tout ça, c'est à suivre. Et comprenez que la MONUSCO appuie avec tous ses moyens le gouvernement pour qu'il y ait quelque chose de pérenne.
Voilà, on va écouter les auditeurs. Et avant de revenir à vous, monsieur Donna, ou encore, si vous voulez, Bruno, chef DDR, section MONUSCO, on va rouvrir les standards pour recevoir les auditeurs qui veulent participer à cette émission. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine nous rejoindre que nous parlons de ce processus de DDRR avec ce qui se passe actuellement au niveau des Tanganyika avec 1900 miliciens qui ont remis les armes aux autorités locales et à l'Ituri, environ 700 miliciens du groupe armé FRPI qui ont déjà rejoint les sites d'Azita pour les pré-cantonnements. Mais seulement, il n'y a pas un programme clair officiellement aujourd'hui au niveau national. Que faut-il faire pour que finalement ce processus soit durable? Vous avez suivi quelques conditions avancées par notre invité, Sylvain, vous êtes à Bunia, Josephis à Boston, Deo Gracias à Kananga. Donc, nous rappelons que le numéro des contacts, c'est le 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Merci de encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Et comme vous le savez, au cours de ces dernières décennies, la République démocratique du Congo a connu une longue période de conflits nationaux et régionaux et qui ont entraîné le recrutement massif des enfants dans les forces et groupes armés. Et malgré ses immenses richesses minières et énergétiques et l'étendue de ses terres arables, le pays est aujourd'hui parmi les plus pauvres au monde avec plus de 70% de la population vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Il a fallu depuis les années 2007 des programmes pour contribuer à la pacification et à la stabilité de la RDC et qui devrait absolument se passer par la reconversion des ex-combattants hommes et femmes en acteurs économiques dans les domaines de l'agriculture vivrière et maraîchère, et de la pêche artisanale et de l'élevage et tant d'autres. Alors au nombre de ces programmes qu'on venait de suivre d'ailleurs notre invité qui parlait des peines DDR et aussi de la CONADER, Sylvain vous êtes à Bunia, Josephine à Boston et Deo Gracias à Kananga. Sylvain bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, merci pour m'avoir associé à cet échange. Je voudrais saluer M. Bruno, mais je salue aussi Mme Josephine, la partie de Boston. Il faut dire que depuis que la MONUSCO appuie la RDC en ce qui concerne le processus de la pacification, je dirais même de la stabilisation de notre pays, il faut reconnaître les efforts qui sont déjà entamés et qui sont déjà accomplis. Pour tout observateur intelligent, en ce qui concerne la stabilisation de la RDC, la MONUSCO a joué de grands rôles. Et d'ailleurs, si vous lisez toutes les résolutions sur la RDC, vous allez vous rendre compte que dans ces résolutions, il y a eu vraiment une prise en compte de cet aspect de la démobilisation et de l'insertion des forces négatives à l'RDC. Alors, comme la question est abordée, moi, ma position est claire, c'est qu'il ne faut pas laisser ce domaine exclusivement, n'est-ce pas, aux étrangers. Et quand vous lisez toutes ces résolutions aussi des Nations Unies sur la RDC, cela est reconnu même en droit international, c'est que la RDC est un État souverain. Donc, il y a des actions de la souveraineté de l'État congolais qui doivent être respectées. Et je me dis aussi ce processus de la démobilisation des forces négatives et même la réception de ses membres dans la communauté congolaise doit être aussi une action du gouvernement avant tout. Alors, est-ce qu'il y a un programme ou pas? Effectivement, nous n'avons pas un programme cohérent. Je vais parler de l'Ituri, ma province. Et je suis sous l'écoute des autorités provinciales. La province de l'Ituri, à travers son excellence, M. Jabamoy Sassédi, le gouverneur des provinces, s'investit même avant, même quand encore nous étions dans la seule province rentale, sur cette question des FRPI, mais aussi de d'autres groupes rebelles qui existent à l'Ituri. Et M. le gouverneur, vous allez me m'excuser de demander à ce que tous les Ituriens qui me suivent à ce moment-même dans cette mission, de pouvoir déposer les armes et venir travailler. L'Ituri a toutes les potentialités, toutes les opportunités d'affaires et même les grandes opportunités pour être des grands dans ce monde et même dans ce pays. Donc on n'a plus d'intérêt à toujours prendre les armes et penser qu'on peut être grand. Non. Donc ça a été un appel pour moi.
Est-ce que Sylvain, vous partagez l'avis selon lequel que les contextes actuels facilitent déjà, même le gouvernement congolais ou encore d'autres partenaires, les travail sur le terrain? Parce que à l'époque, avec la séparation, l'absence de l'autorité, et parce qu'il y avait la rébellion ça et là, aujourd'hui, il y a eu réduction de manière sensible des actions des groupes armés, en tout cas dans l'ensemble du pays, et que le travail doit être plus facile qu'avant. Alors comment arriver réellement à imposer un processus durable?
Je suis de ceux qui soutiennent la vision du président Félix en matière sécuritaire. Ça veut dire que les gens doivent laisser les armes et venir travailler pour la RDC. Alors je vais dire ceci. L'Ituri, principalement même tout le Congo, on doit mettre en place un programme cohérent qui doit passer par l'élévation du niveau de conscience des Congolais vers l'amour de la patrie. Il faut que les gens sachent que nous avons un seul pays, une seule province qui s'appelle l'Ituri, qui concerne ma province. Deuxième chose. Le Congo, il faut un programme cohérent de la prise en charge psychosociale des Congolais, puisque nous avons affaire à des personnes pratiquement qui n'ont pas un niveau psychique normal. Et ça doit être vraiment dans un programme cohérent. Troisième chose, et c'est très important, c'est qu'il faut qu'on suscite une politique économique de nature à créer l'emploi pour les gens. L'invité l'a dit, M. Bino, je l'ai salué encore. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens aient, que les gens soient occupés. Lorsqu'à l'économie, nous disons que une économie qui n'a pas d'emploi, c'est une économie qui insécurise la population. Ceci veut dire que toutes les antivaleurs naissent, entre autres la rébellion et tout, puisque vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous quittez le Congo, vous allez au Rwanda, demander au Rwandais de prendre des armes. Personne ne va accepter, vous allez arrêter d'ailleurs. C'est la même chose à France, puisque les gens ont déjà un niveau de conscience patriotique élevé, les gens sont occupés, et les gens maintenant travaillent pour le développement de leur milieu. Ce qui va être dit, c'est un peu de frustration et de ségrégation à un moment donné, où les gens ne savent pas se retrouver dans leur pays. Et j'ai toujours dit aussi, il faut que le partage de la richesse nationale soit fait équitablement.
Voilà. Alors donc, le problème, Sylvain, comme l'ont dit beaucoup d'autres auditeurs sur notre page Facebook, le problème actuellement, c'est ce que offrent également les processus comme filet de sécurité. Est-ce que on ajoute à cela une formation professionnelle pour que finalement les gens soient facilement réintégrés ou réinsérés? Et c'est là la question. Alors, on va prendre Madame Joséphine. Oui, rapidement, en une phrase.
Je peux dire ceci avec le chef du processus DDR en Ituri, la fois passée, puisque finalement, les gens n'ont pas à capitaliser ce projet, comme le député le disait, il faut la pérennisation du projet. C'est là où je dis que la pérennisation appelle à l'institutionnalisation de ce programme en RDC. C'est que l'État congolais doit s'en approprier, il ne faut pas que ce soit un projet de partenaire.
Voilà, donc l'institutionnalisation de ces projets. Merci beaucoup. On va voir avec Bruno si telle pourrait être quand même une approche importante. Sylvain, merci d'avoir appelé des Bougnas. Joséphine, vous êtes à Boston, aux États-Unis. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Ah, bonjour et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Hein. Je voulais dire ceci. Au gros mot, des grands remèdes. Apparemment, pour une fois, hein, ça ne marche pas au Congo. Parce que quand vous dites que vous demandez aux groupes armés de déposer les armes pour qu'ils viennent travailler, qu'ils viennent être incorporés dans l'armée, ces gens-là, est-ce qu'ils sont, ce sont des Congolais? Parce que sur votre antenne là, tout le temps vous dites que il y a eu des hommes non autrement identifiés qui ont tué les Congolais. Vous avez dit, vous dites toujours, vous donnez des informations pour dire que le rebelle ougandais. Mais quand on va, quand les rebelles ougandais là, ils vont donner les armes, vous allez les engager au Congo? Ça pour autant qu'ils soient identifiés. Mmh. Moi, je crois que comme le au gros mot des grands remèdes n'ont pas marché, moi je crois que
oui, mais Madame Joséphine, quand nous voyons l'évolution de la situation politique à RDC, c'est vrai qu'à un certain moment, même en appui sur le plan militaire, il y a eu une approche militaire qui a permis à ce qu'on puisse débouter quand même certains groupes armés actifs dans l'est du pays. Et puis finalement est arrivée la phase de la démobilisation volontaire et aussi le désarmement volontaire de ces personnes, hommes et femmes, qui s'étaient engagés dans ces groupes armés. Mais alors aujourd'hui, c'est vrai, on ne sent pas, comme certains l'ont dit dans leurs commentaires, l'action, l'intervention de ces programmes de manière efficace, avec succès. Mais que faut-il faire pour que finalement on ait un processus durable? Et Sylvain, qui vous a précédé, a proposé l'institutionnalisation de ce programme.
Ok, JR, écoute, vous avez bien dit certains groupes armés ont déposé les armes. On ne veut pas de certains groupes armés. Nous voulons que tous les groupes armés qui sont à l'Est déposent les armes. Comme le gros mot ne marche pas, essayons d'accompagner avec l'identification de la population, le recensement. Le président Félix doit commencer avec le recensement de la population congolaise. Parce qu'il y a les gens qui se cachent. On ne sait pas qui ils sont. Et ils sont là au Congo. Mais si on recense, on fait le recensement dans tous les villages, voilà, partout, on va connaître, on va savoir qui est qui. Et moi, je n'exclus pas le riposte de notre armée. Non. C'est la population qui doit, la population locale connaît qui est qui. Mais quand vous nous donnez des informations par moment pour dire que les hommes non identifiés,
non autrement identifiés,
ils sont venus tuer les Congolais. Mais les gens là, s'ils viennent avec les armes, ils déposent, ils sont non autrement identifiés et on va leur incorporer dans notre armée. Mais là, c'est très grave.
Merci
c'est
beaucoup.
Très grave.
Merci
beaucoup, madame. Identifier la population, commencer avec le recensement, accompagner tout ça avec le recensement et l'identification de la population, je crois que c'est une solution.
Voilà. Alors, on prend Bruno. C'est vrai, vous êtes chef DDR à la MONUSCO. Vous venez de suivre Sylvain et Joséphine et Madame Joséphine qui parlent de deux préalables. L'institutionnalisation de ce processus, bon, je crois que ça pourrait résoudre, au lieu que ce soit un programme ponctuel, c'est-à-dire en appui, les partenaires décident ensemble de pouvoir institutionnaliser ces processus. Et aussi la question de l'identification de la population, ça pourrait résoudre tant soit peu cette question.
Merci beaucoup de me donner la parole. Et d'abord, je remercie et Sylvain et Joséphine, Sylvain qui est en Itourie et Joséphine au Massachusetts, aux États-Unis. Alors, par rapport aux propos de Sylvain, moi, je pense être déjà d'accord avec ces propos d'un citoyen du pays qui parle de la paix, qui parle des grandes idées du DDR et que les gens s'activent et qu'il y a beaucoup aussi, n'est-ce pas, de richesses pour travailler au lieu de faire la guerre, mais faire la paix. Donc, essentiellement, oui. Et j'écoute aussi les propos de Joséphine. Alors, moi, je pense, je vais rester dans mes compétences, n'est-ce pas? Je pourrais pas parler d'identification de toutes les populations, mais n'empêche, je voudrais donner des précisions. Alors, moi, je pense que c'est bon de penser grand et très large, n'est-ce pas? Elle a parlé de, au gros mot, au grand remède. Mais dans la réalité, on peut penser grand, mais il faut commencer petit. Parce que si on commence pas petit, c'est la faille totale. Normalement, selon mon expérience, on peut commencer grand, même dans le DDR, commencer petit, penser grand et intervenir partout. Dans le pays en ce moment, il y a une certaine dynamique, par exemple, qui serait au Kasaï, une autre dynamique au Maniema, une autre au Tanganyika, qui pourrait peut-être être les priorités pour nous à la MONUSCO de faire des programmes communautaires en incluant les ex-combattants. En Ituri, une autre approche. Au Kivu, au nord et au sud, où le théâtre est quand même différent, où vous avez dans
donc
le même théâtre...
adapter les programmes selon les milieux, selon le
absolument,
les secteurs.
Absolument.
Parce que ce soit un programme multisectoriel.
Justement, mais maintenant, sorte. Nous pouvons appuyer, par exemple, justement, dans ce théâtre, il y a les combattants et les dépendants étrangers. Je pense que madame en a parlé. Mais il faut savoir, je fais la distinction parce que je pense que madame a parlé d'intégration dans l'armée. Alors, le DDR, c'est un processus volontaire. Ils viennent, et je répète, c'est le gouvernement souverain qui s'en occupe. MONUSCO est en arrière pour appuyer, n'est-ce pas? Appuyer avec les bons offices, nos efforts techniques, etc. Et à la limite, avec les bailleurs, et j'ai entendu aussi le mot cohérent, ce qui est très bien. Une cohérence ne veut pas dire que ce doit être partout pareil. Mais faisons la distinction que le DDR, ce sont les personnes qui choisissent la vie civile, qui n'est pas l'intégration aux forces nationales. C'est une branche...
Qui dépose les armes pour rejoindre la communauté, la vie civile.
Oui, alors qui n'est parce que je crois que madame m'a parlé d'intégration à l'armée, qui est une chose, et la démobilisation, réintégration, c'est autre chose. Et en parlant d'identification, je ne vais pas parler pour tout le pays, il faut savoir que dans un bon DDR, celles et ceux, surtout ceux dans le pays qui sont soupçonnés de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou d'atteinte aux droits de l'homme, ne sont même pas éligibles au DDR. Il faudrait pas non plus que le DDR soit servi comme quelque chose pour éviter la justice. Et les droits de l'homme et la justice sont des domaines très importants en amont de DDR. Bien sûr qu'il y a eu des exceptions, bien sûr qu'il y a eu des erreurs, je suppose, dans le passé. C'est pourquoi je dis, voyez-vous, tout commence d'abord par un processus politique. Le DDR, c'est politique d'abord, tout comme les élections, par exemple. Quand on me pose la question, est-ce que c'est technique ou politique? Les
élections, c'est politique. C'est parmi les domaines de souveraineté, quand même.
Voilà.
C'est purement politique.
Alors, justement, donc, moi, je dis que, au-delà de cette suggestion d'institutionnalité, je crois que c'est le mot en français, c'est bien, mais il faut aussi amener d'autres partenaires. Qui soit congolais, le secteur privé. Parce que si vraiment il y a un vrai choix d'un ancien milicien, combattant, qui avait choisi les armes, qui décide vraiment d'aller vers la paix, mais il faut soutenir cette personne. À la fin du programme court terme, je dis, court terme de l'appui de la MONUSCO aux autorités nationales, pourquoi pas le secteur privé?
Oui, parce qu'il faut les reconnaître, qu'il y a eu, effectivement, tout au long de ce processus, problème de financement. Nous avons vu à un moment les démobilisés qui sont retrouvés dans la partie ouest de la République après être, désarmés au niveau de l'Est. Alors, ils se sont retrouvés dans l'Ouest et sans moyens, sans un programme réel de réinsertion. Ils ont manqué même il y a eu des difficultés des filets de sécurité, et nous avons vu ces gens-là regagner l'Est du pays et regagner aussi les groupes armés. C'est ça le problème. Au fait, le problème de financement doit être pris en compte, parce que vous évoquez les cas des privés, des partenaires. Il faut quand même des partenaires sérieux et qui doivent être aux côtés du gouvernement.
Je pense que la réponse est oui. Rien n'est gratuit dans la vie, n'est-ce pas? Mais il faut une planification saine, et je répète, de la part du gouvernement. Et je reprends, moi qui suis à la MONUSCO, je reprends les mots qui sont dans la résolution. Et il est dit dans notre mandat que le Conseil de sécurité nous demande une certaine stabilisation de proximité, ainsi qu'une démarche souple de DDR. Et là, vous me parliez des gens qui s'étaient à l'Est, qui vont à l'Ouest, ils sont allés à Kitona, à Kamina, etc. Donc, et moi, je me dis, peut-être qu'il faut, encore une fois, penser large. Pourquoi ne pas faire des programmes en appui in situ dans les communautés locales et en incluant la communauté. Très, très, très important. Il ne faudrait pas que ces programmes ou le processus soient que pour les combattants. Mais il ne faut pas aller à l'autre limite pour me dire qu'il ne faut faire qu'avec les communautés. Parce que quand même, un combattant actif, c'est une menace à la sécurité. Donc, ben voilà, je continue de vous écouter. Merci.
Alors, on va rouvrir les standards avec Ismaël. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à tous les amis de la Radio Capi.
Voilà, vous avez la parole. Alors, que faut-il faire pour vous? Est-ce que vous estimez que c'est vraiment important maintenant de pouvoir mettre sous pied un programme ou un processus durable de démobilisation, désarmement et réinsertion des combattants issus des groupes armés?
Exactement ce que vous venez de dire. Un programme compétent, c'est ça ce qu'il faut. Les mots que vous avez dit actuellement, flagile, ne pas aller.
Voilà, Ismaël, on a des petits soucis avec votre ligne. Est-ce que vous pouvez faire un petit déplacement de là où vous êtes? Peut-être vous sortez comme dans une caisse là, ça ne permet pas d'avoir une très bonne communication. Ismaël?
Oui. Je disais que peut-être que vous avez dû avoir un programme durable pour avoir ce dont on est en train de faire. De la mobilisation et la RS, c'est déjà le moyen. Vous avez voulu.
Voilà, vraiment ça ne va pas avec votre ligne. Par les soucis des auditeurs qui nous suivent, nous ne pouvons pas continuer avec cette qualité qui n'est pas audible. Hein. Merci beaucoup. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Ngoma ya Kwetu. Une vitrine de la musique traditionnelle folklorique du patrimoine sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques. Prenez rendez-vous tous les mardis et mercredis à 15h30, heure de Kinshasa. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu.
Parole aux auditeurs.
Je lisais tout à l'heure le commentaire d'un auditeur qui nous dit ceci. Les principales phases du programme dans ces processus qui passent par la sensibilisation, le regroupement ainsi que la phase de la réinsertion, nous avons constaté, nous, que les deux premières phases ont été exécutées avec succès, mais tandis que la phase de la réinsertion a toujours posé problème. Pourquoi? Et nous proposons que dans l'avenir, que une étude soit menée de fond à comble entre les gouvernements et les partenaires afin d'étudier les filières de formation qui doivent être retenues pour la réinsertion des ex-combattants. Et je vous propose l'agriculture, pêche, élevage, commerce des détails, préparation artisanale, pain, fabrication artisanale, du savon, menuiserie et ferronnerie, soudure, coupe-couture, conduite mécanique et autres. Voilà, autant de propositions. Alors on va prendre quelqu'un qui a un expert à cette question à la matière et qui nous a rejoint. Ben, quelle coïncidence, il s'appelle JR également. JR, il est à Bumba, dans l'Équateur. JR, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour, c'est JR. Je salue en même temps les auteurs d'Erdo Capi, je salue aussi l'invité de la MONUSCO. Je suis quelqu'un qui est passé par le programme DDR en 2006. Vous me suivez?
Tout à fait. Donc très bien, vous êtes avec
donc,
nous.
Donc moi, je suis le fruit de ce programme DDR, mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de structure d'encadrement après, à la suite de ce programme. Donc, c'est-à-dire, les gens sont abandonnés à un certain moment, ils ne savent plus quoi faire, il y en a qui sont retournés dans l'armée, il y en a qui sont rentrés dans les groupes armés, ainsi de suite. Moi, après ce programme, je suis allé dans les études, aujourd'hui je suis ingénieur technicien en agronomie, et je suis arrivé à monter une structure qui s'appelle Génie Agro-Pastoral Industriel. Ici, à Bumba, je produis le savon dénommé savon Lokolé, qui se vend ici. J'ai une palmeraie. Et voyez, du côté, parce qu'il n'y a pas d'encadrement, voyez comment...
Oui, je crois qu'on va répréciser un peu les choses. Nous sommes en 2006. Après les élections de 2006, vous avez bénéficié de ce programme de démobilisation, désarmement et réinsertion. Alors, vous nous dites qu'à ce moment où, En tout cas, on était dans un contexte de réunification du pays. Et vous avez bénéficié de ce programme, mais vous avez senti qu'en ce même moment-là, il y avait déjà cette contrainte-là. Il y avait déjà ce problème de filet de sécurité, de manque d'encadrement.
Tout à fait. Il y en avait déjà, c'est-à-dire nous avons vécu ça. Il y a des gens qui sont allés...
Et pourtant, il y avait à cette époque-là le programme de la CONADER. Il y avait la CONADER, il y avait d'autres programmes nationaux.
Oui, justement, ce CONADER-là, ce programme de CONADER, nous sommes allés. Nous sommes venus des petits programmes, vous allez faire l'agriculture, ainsi de suite. Et nous sommes passés par là. Et moi, je suis venu approfondir le programme. Mmh. Mais non, mais ce que je fais maintenant... Dans ma structure, il y a des gens qui vivent un peu de ce que moi j'ai fait. Mais écoutez, il y a tout un arsenal de taxes qui nous viennent, hein, sans tenir compte. Vous savez, nous sommes en train de chercher à faire un effort dans ce pays, mais il n'y a pas de structure d'encadrement. Mm-hmm. C'est ce que nous regrettons.
Alors, quand vous avez suivi,
Dame là qui a parlé de Boston.
Oui.
Oui.
La dame de Boston qui a parlé de l'identification de la population. De
C'est très, très important, c'est une très bonne chose. Vous savez, moi je suis passé par Goma, je sais. Lorsqu'on dit que les gens sont sortis de la forêt, ils se sont rendus. Mais il faut faire attention, on ne doit pas prendre tous ces gens pour les aider dans l'armée. Et les gens là, ils ont pris des armes, ils ont fait des choses. Mais là on les prend pour les protéger, ainsi de suite. Et pourquoi on n'a pas passé à ces gens-là?
Alors, Gilles, il faut une précision, parce qu'ici, nous ne parlons pas de la question du brassage. Je sais que parmi les programmes DDR, il y a eu à l'époque le programme de brassage où on devait prendre quelqu'un qui quittait l'armée ou qui a servi l'armée, la rébellion, qui réintégrait l'armée nationale. Mais pour les cas d'espèce, il s'agit de ceux qui déposent les armes de manière volontaire et qui veulent intégrer la vie civile.
Voilà. Mais naturellement, il faut aussi des structures d'encadrement pour ça.
Voilà.
Ils vont intégrer, ils vont apprendre certains métiers, comme vous venez de dire là. Mm-hmm. Ils vont choisir un métier, ils seront formés et pour qu'ils
Est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact positif si jamais on institutionnalisait ces processus de démobilisation, désarmement et réinsertion? Qu'on crée un programme national durable.
Voilà. Tout à fait, qu'on mette le programme, qu'est-ce qui va faire le suivi, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là, ils sont à quel niveau, ainsi de suite.
Faire un suivi. Merci beaucoup, JR. Allons voir, écouter également Bathier, qui est à Kinshasa. Bathier, bonjour. Ingénieur bonjour, Bathier, bonjour, vous avez la parole.
Merci de m'avoir encore passé la parole. Je dois d'abord saluer tous nos compatriotes qui nous suivent, surtout au Congo profond. Je voulais intervenir, monsieur le journaliste, et même dire à votre invité, c'est bon d'instituer juste ces programmes. Mais il y a vraiment une faille au niveau des gens qui patronnent ces projets. Moi, j'ai vécu surtout le système là des mobilisations. On a vécu ça à l'Est. Nous avons vu qu'en soi, il n'y a pas une bonne suivi. Il y a des gens, par exemple, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, il y a les jeunes gens qui viennent, ils viennent déposer les armes. Maintenant, même avec la MONUSCO, ils sont là avec leurs projets. La façon dont on encadre ces gens-là, c'est difficile. Et nous voyons que ces gens, après quelques temps, ils sont là, ils commencent à souffrir. Après, ils vont encore rentrer. C'est un peu déplorable.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, réaction, Bruno.
Merci de me donner la parole, JR. L'invité au téléphone, JR, ben pour moi, c'est une histoire positive.
C'est un témoignage. Hein.
C'est un témoignage
parce que il est le fruit de ce programme.
Absolument.
En 2006, nous sommes dans un contexte politique très, 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 très bouillant. Mais bon, il a eu quand même le temps de se réintégrer.
Ben oui, donc pour moi, c'est un témoignage extraordinaire et positif. C'est quelqu'un qui a déposé les armes depuis 2006, a fait le DDR.
Et puis il est allé aux études pour améliorer, perfectionner ce qu'il a pris comme filet qui a bénéficié dans les filets de sécurité.
Oui, mais je comprends aussi son, je ne sais pas si le mot en français c'est insatisfaction, qu'il n'y a pas des structures encore plus pérennes qui puissent accompagner. Mais voyez-vous aussi, les programmes, ils ne sont pas pour l'éternité. Il y a un moment, encore une fois, où les gens aussi, s'ils le peuvent, doivent essayer de s'intégrer dans la société. Donc, quelque part, moi, le témoignage de JR, il est excellent.
Est-ce qu'aujourd'hui, l'appel, par exemple, du secrétaire général de l'ONU, qui appelle le groupe Zama à déposer les armes et à rejoindre des communautés, est-ce que ce n'est pas une occasion, une opportunité d'ailleurs, pour que finalement les experts réfléchissent dans les jours à venir, notamment dans les documents stratégiques que la MONUSCO va, ou les Nations Unies, le Conseil de sécurité va proposer pour la coopération entre la RDC, qu'on puisse inscrire c'est cette question de la durabilité ou d'un processus durable, notamment au niveau des DDR, que la section par exemple que vous pilotez, que cette section puisse développer des stratégies durables afin d'arriver au résultat.
Alors il y a une grosse réponse qui dit oui, mais voyez-vous, on doit rester dans le mandat. Alors moi j'ai mes patrons à la MONUSCO, le représentant spécial adjoint Monsieur François Grignon et bien sûr Madame la représentante spéciale Madame Léla Zerougui, qui vont nous aussi nous donner une directive et une direction et une orientation. Mais je reprends, étant moins technicien ici à la MONUSCO, la grande réponse est oui, appuyer le gouvernement, parce que bien sûr qu'on va appuyer au niveau technique, mais les décisions seront souveraines du pays. Il y a un nouveau cadre politique. On va appuyer au niveau d'une peut-être nouvelle politique et un processus de DDR, pourquoi pas pérenne. Mais je répète encore une fois, nous, on est la MONUSCO, les opérations de la paix. Et nos interventions sont à court terme, mais ça ne veut pas dire que d'autres partenaires ne peuvent pas se joindre à nous pour appuyer le gouvernement. Mais bien sûr, parce que quelque part, regardez le témoignage de JR. Je suppose qu'aujourd'hui, quand il marche dans la rue, on ne dit pas « Ah, voilà l'ex-combattant ». Mais non, plus que c'est un succès, c'est-à-dire que la personne ne devrait même pas être identifiée. Parce qu'il y a aussi une stigmatisation dans les sociétés, si quelqu'un qui a fait la guerre, et même pour les victimes. Donc quelque part, pour que ce soit réussi, ça doit être pérenne. Et moi, je le dis très ouvertement, il y a des erreurs à ne pas commettre. Ne pas dire aux gens de sortir. Et puis, il n'y a pas d'assistance. Ça peut pas être pour l'éternité. Mais ils doivent pouvoir continuer.
Et est-ce que l'appel du secrétaire général, ce n'est pas un appel à l'air? Ce n'est pas un appel à l'air.
Ah non,
parce qu'il y a toujours des résolutions, il y a toujours des recommandations. Mais finalement, dans les concrets, qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais non, mais dans le concret, on continue. Par exemple, je peux vous dire, écoutez, depuis la MONUSCO, jusqu'à MONUSCO, on a rapatrié plus de 30 000 combattants et dépendants étrangers. Mais c'est du concret. Donc, c'est des opérations. Nous, on le fait. On a trop de bases de données maintenant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne retournent pas, certains d'entre eux, n'est-ce pas? Mais je parle des pays limitrophes, que ce soit vers l'Ouganda, que ce soit au Rwanda, au Burundi. Mais c'est des choses concrètes qu'on continue de faire. Le gouvernement, depuis le commencement du programme DDR, je me souviens à la phase 1, ils avaient traité de 200 000 individus. De cela, il y avait, je pense, plus de 100 000 démobilisés. 88 000 réintégrés, et la phase 2, il y avait à peu près 5 000, etc., 2 et 3. Et là, en ce moment, c'est le moment, ce n'est surtout pas les paroles en l'air du secrétaire général. Au contraire, mais c'est un appel et concret qui dit aux combattants de rendre les armes et de s'engager. Alors, n'oubliez pas que dans notre résolution, comment répondre à cette question d'insécurité? Il y a la partie militaire, mais nous sommes la partie non militaire complémentaire du DDR. Et comme je vous ai dit avant, c'est à nous d'écouter les orientations de notre représentante spéciale. Et je peux vous assurer que l'appel du secrétaire général Antonio Guterres est tellement bienvenu dans ce contexte. Mais nous attendons, en même temps que nous préparons et continuons nos activités, n'est-ce pas? N'oubliez pas, je parlais au début de l'émission de CVR aussi. Écoutez, l'année dernière, on a fait... non, je parle de community
violence. La réduction des violences communautaires.
Ben, écoutez, dans l'année précédente, on en a fait une soixantaine de petits projets. Mm-hmm. Petits projets pour les ex-combattants, les membres vulnérables de la société. Et on n'attend pas les appels, mais on continue. Mm-hmm. Mais maintenant, il faudrait quand même une... Comme disait l'auditeur, je crois, de Bounia, une cohérence. Et nous, nous sommes très prêts à et continuer le travail qui se fait dans le DDR, DD3R et CVR. Et aussi,
alors, justement, comment allez-vous réagir par rapport à cette inquiétude de cet auditeur qui a envoyé ce message? Il dit, oui, mais les vrais problèmes aujourd'hui, c'est la canalisation des fonds, la canalisation du financement de ce projet. Et parce qu'à l'époque, il y a la Banque mondiale qui a appuyé ces programmes de PNDDR par le MEDRP, une structure internationale qui assurait d'ailleurs le secrétariat de ce programme. Il y avait d'autres donateurs tels que l'Allemagne, Belgique, le Canada, le Danemark, Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, Norvège, Pays-Bas, le Royaume-Uni, le Suède et l'Union européenne. Alors, le vrai problème, on a senti comme si c'était des financements qui se sont volatilisés dans la nature. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas responsabiliser les programmes DDR de la MONUSCO pour canaliser ces fonds et ça pourrait donner les résultats? Est-ce que vous partagez cet avis?
D'abord, en toute transparence, moi, j'étais dans cette équipe de la Banque mondiale qui s'appelait MDRP. C'est un sigle anglais qui veut dire, je sais plus maintenant, Multi-Donor Programme de Démobilisation et Réintégration. Et je venais au pays à l'époque, dans l'équipe de la Banque mondiale de Washington. Et ce programme était régional. C'est-à-dire, à l'époque, la Banque mondiale donnait des financements pour les pays de la région élargie des Grands Lacs, c'est-à-dire à l'époque le Congo avait la CONADER, le Rwanda a la Commission de Démobilisation et Réintégration, etc., etc. Et alors je ne peux pas parler du côté de ce qui s'est passé avec les financements. C'est pas mon rôle aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait eu des dépenses inéligibles? Peut-être. Mais il y a eu des résultats concrets. Est-ce que la MONUSCO peut être le point de canalisation? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut appuyer et faire une structure de coordination conjointe? Je dis oui. Quel que soit, parce qu'il y a quand même une responsabilité fiduciaire avec cette et au fait, à l'époque, c'était pour ça que la Banque mondiale, il n'était pas juste le bailleur, il y avait un secrétariat qui s'occupait aussi de la responsabilité fiduciaire. Partout où il y a de l'argent, il faut faire attention, il faut faire très attention. Même nous-mêmes qui sommes ici à la MONUSCO, on doit faire très 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 attention. Il y a des tentations qui se passent. Mais si nous revenons à la programmation, je répète, oui, pour le financement, parce que le Conseil de sécurité a aussi demandé aux partenaires d'y contribuer. Parce que si vous n'avez pas un processus, ce que dit le Conseil, crédible, mais ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Alors moi, je pense, encore une fois, le lead, c'est le gouvernement. Et puis, nous, nous appuyons en termes de bons offices, appui technique, et puis, pourquoi pas faire une structure conjointe et aussi pérenne. Il faut être clair, la division, on dit, de responsabilité, qui fait quoi, comment, c'est très important. Je pense que ce qui s'est passé jusqu'à là est quand même bien, mais il y a de l'espace pour améliorer. Je vous remercie.
On va écouter deux derniers auditeurs. Il y a Jules qui est à Lubumbashi et Deo Gracias à Kananga. On commence avec Deo Gracias. Deo Gracias, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on prend Jules qui est à Lubumbashi. Jules Kazadi, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour, parce que je suis à notre invité.
Voilà, vous avez la parole, Jules.
Voilà, en tout cas, je suis très déçu par rapport à votre... Parce que je demande à notre président de la République de mettre une armée forte à l'Est pour mettre dehors à ceux qui nous envahissent. Parce que ça, c'est terrible. On ne pouvait pas rester dans cette histoire-là
DDR, PPR, DD, PPR, je ne sais pas comment. Ça, ce sont des structures qui bouffent de l'argent pour rien. Moi, je donne avec du respect que je donne à notre invité à ce que la MONUSCO est en train de faire. Mais moi, je ne comprends pas un Congolais qui prend des armes et intégré dans la route dans une structure. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous pouvez me tromper.
Voilà, Jules, on vous écoute à peine. Donc on a des petits soucis avec votre ligne. Je ne sais pas si c'est lié à l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? Voilà, là, c'est difficile. Ça continue à se dénaturer. Voilà, Bruno?
Alors, on n'a pas trop compris les propos de Jules, mais il parlait d'une armée forte. Mais bien sûr, je respecte son opinion de citoyen et il voilà, donnait un conseil, c'est son opinion. Mais j'ajoute, voyez-vous, je ne pense pas qu'une solution militaire seule, que ce soit l'armée républicaine du pays, appuyée ou non par les forces de la MONUSCO, qui est en dehors de mon domaine. Mais franchement, il faudrait une solution complémentaire. La solution est militaire et non militaire, parce que je ne pense pas qu'il soit possible de se débarrasser de ce fléau qui a été dans le pays pendant tellement longtemps qu'avec les armes. Au contraire, si vous faites une combinaison intelligente de la chose, je pense que oui, on pourrait avoir un avenir.
Voilà. Alors, mais parce qu'on parlait de la sensibilisation et qui précède d'ailleurs le regroupement dans les centres d'orientation, ces combattants qui déposent des armes, est-ce que vous pensez que l'approche sensibilisation doit avoir aussi un autre contenu, en tout cas dans les contextes actuels, sensibilisation de la population, sensibilisation même des ex-combattants, aller au-delà des appels, parce que vous avez suivi Sylvain qui parlait tout à l'heure du gouverneur de l'Itouri qui avait lancé un appel à l'endroit des combattants pour déposer poser des armes, et c'est cet appel qui est lancé aussi par la bouche du secrétaire général lors de sa visite en RDC. Il y a tant d'autres appels qui se multiplient aussi au niveau des civils, dans la société civile. Est-ce que cela suffit simplement pour que finalement les combattants puissent revenir dans la communauté, ou il faut encore ajouter une autre dose?
Alors, je vais essayer de répondre globalement. La sensibilisation, elle est très importante parce qu'il y a aussi des campagnes de désinformation. Il y a tellement de gens qui veulent que la guerre continue parce qu'ils en profitent. Et c'est souvent, moi je trouve très triste, moi je suis ici, ce pays, il est, je crois, je ne connais pas mes chiffres, mais le pays le plus riche de l'Afrique, mais le plus pauvre. Et les gens n'en profitent pas. Alors, et quand moi je vois les campagnes de sensibilisation, même que nous-mêmes à la MONUSCO, voyez-vous, on fait des messages par radio, notre section DDR-RR-CVR, nous avons des radios mobiles, on va passer le message, on fait des causeries, des vidéos, des projections de vidéos, on fait des lancements par hélicoptère de la force de la MONUSCO. Mais écoutez, je pense que ça a des résultats. Par exemple, écoutez, concrètement, voyez-vous, sans vous donner des détails pour la sécurité, aujourd'hui, à la MONUSCO, on a 500 armes, plus de 500 armes collectées, fonctionnelles, qu'on a pris de ces combattants. C'est concret. Mmh. On a plus de 8000 munitions chez nous dans notre stockage d'armes et de munitions. Alors ça, ce n'est pas venu du ciel. Excusez l'expression.
C'est la volonté des personnes qui étaient impliquées dans les actions de groupes armés
qui ont écouté les messages. Et je ne veux pas croire ou faire croire que c'est l'exclusivité de la MONUSCO, mais c'est tout le monde. Les leaders, que ce soit local, régional et national, qui font l'appel.
Il y a eu des actions aussi isolées, nous pouvons citer les PAREC, les PARECO, le Ngoï Mulunda à l'époque, et aussi d'autres programmes de citoyens congolais.
Alors oui, comme je suis technicien, je vais ajouter une petite dose. À l'ONU, on n'est pas pour les programmes de rachat d'armes. Ça, non. Parce que, au fait, il y a peut-être la bonne volonté de certains, Et ce que ça se fait, au fait, ça crée un marché. Quelqu'un vient avec, il donne son arme, il a $50 ou $100, il repart, il achète deux autres, il revient, il redonne. Donc nous, là, à l'ONU, on n'est pas pour le rachat d'armes, mais on est pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration vers la vie civile.
Bruno Donna, vous êtes chef DDR, RR, CVR, section Monusco. En tout cas, il faut encore merci de votre disponibilité pour échanger de manière citoyenne avec les auditeurs.
C'est à moi de vous remercier.
C'est une première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois.
Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous tous pour l'avoir suivi avec intention soutenue, avec une attention soutenue. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Nico Kalamba était à la réalisation de cette émission, supervisée par Martin Sebujangwe, et Jean-Claude Sial a été à la mise en onde de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.